Bonsoir à toutes et à tous, il est 20h47, vous écoutez Fréquence Protestante au 100.7 FM, je suis Julie et pour la première fois ce soir, j'anime l'émission accompagnée de Catherine, pour qui c'est une première aussi. Catherine est une ancienne éclaireuse et journaliste, mère de deux enfants aussi éclés, alors merci de votre indulgence. Ce qui est certain, c'est que nous sommes ravis de vous retrouver pour une nouvelle émission de Ça se discute. Et tout de suite, le sommaire de l'émission avec Catherine.
Bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir Julie. Au programme de cette émission d'octobre, le défi Un foulard pour tous et toutes que nous avons déjà abordé le mois dernier. En pratique, Claire du groupe MEL dans les Deux-Sèvres avec nous pour parler du scoutisme unionisme en milieu rural. Nous parlerons aussi de la banque alimentaire et de l'investissement que peuvent avoir les jeunes et les scouts dans cette démarche avec la présidente de la banque alimentaire de Paris, Île-de-France et Camille, qui s'est déjà engagée dans ce projet. Pour terminer, Maxime Vadenecker, chercheur au CNRS, avec nous pour parler de son documentaire et de l'avancée de son étude. Et vous retrouverez bien sûr à 21h toute l'actualité du scoutisme avec de belles informations avec Paul.
On le rappelle, vous pouvez réagir à l'émission sur les réseaux sociaux au hashtag #16discoute et nous rejoindre sur la page Facebook. Et surtout, n'oubliez pas que l'émission recherche de nouveaux bénévoles pour enrichir ses programmes. Si tu aimerais découvrir le monde du journalisme, de la production, de la radio ou simplement assister à une émission pour commencer, contacte-nous sur notre mail sasdiscoute@eeudf.org. Attention, je le répète, plus clairement, prenez un stylo, c'est sasdiscoute@eeudf.org. On vous attend nombreux.
Comme vous le savez, le projet éducatif des EEUDF est universel. Il doit être ouvert à tous et à toutes. Mais à ce jour, les EEUDF ne sont pas également répartis sur les territoires. Les groupes sont en majorité plus urbains que ruraux et ils touchent peu de jeunes issus des quartiers les moins favorisés. Comment faire aujourd'hui pour que les EEUDF aillent faire plus de mixité sociale, culturelle et géographique? C'est le défi Un foulard pour tous et toutes que s'est lancé l'association avec l'objectif d'offrir un foulard scout au plus grand nombre d'enfants et de jeunes.
Et justement, dans le cadre de ce projet Un foulard pour tous et toutes, Ça se discute va donner de manière récurrente la parole à celles et ceux qui ont mis en place des actions concrètes au niveau de leur groupe local qui permettent une plus grande mixité sociale. Ainsi, chaque mois, nous recevrons un faiseur de ce projet. Aujourd'hui, c'est Claire Delagarde que nous accueillons par téléphone, responsable des éclaireurs de 16 à 19 ans au sein du groupe local de MEL.
Bonsoir Claire.
Bonsoir.
Alors, tout d'abord, nous aimerions que tu nous présentes ton groupe local et peut-être sa particularité.
Alors, le groupe de MEL s'appelle le groupe de MEL Sud Deux-Sèvres. Donc, il est situé dans le sud du département des Deux-Sèvres. C'est le nord de la région Nouvelle-Aquitaine, situé entre La Rochelle et Poitiers, entre Bordeaux et Nantes. C'est une zone très rurale. La ville de MEL, c'est 6000 habitants et c'est la plus grosse ville de notre territoire. Voilà, c'est un territoire qui anciennement a toujours eu des activités unionistes et puis depuis les années 90 à peu près, il n'y avait plus d'activités et on a recréé le groupe il y a 12 ans. Aujourd'hui, il y a 90 adhérents. Je fais partie des membres fondateurs, mais en ce moment, je m'occupe des 16-19 ans de la branche aînée. Voilà.
Et alors, est-ce que tu peux nous dire, pour ceux qui sont plus en milieu urbain, on va te dire, quelles sont les difficultés à faire vivre un groupe en milieu rural ?
Alors, souvent, on pense que les difficultés du milieu rural, c'est de garder les responsables qui sont étudiants et qui vont étudier en ville. Pour nous, donc l'université, c'est à une heure d'ici au moins. Mais finalement, en discutant avec les gens des autres groupes urbains, je crois que le problème est le même en ville. Garder les responsables, c'est toujours compliqué. Nous, on a toujours recruté des responsables à l'extérieur. On a utilisé les stages BAFA, on est allé dans les lycées, on a utilisé le réseau des copains. Et on fait toujours appel à des jeunes qui n'ont jamais été scouts. Et ça, depuis le début de la réouverture en 2007, en fait. Après, les difficultés du milieu rural, ça peut aussi être le déplacement, puisqu'il faut être mobile, avoir une voiture, avoir un permis. Alors parfois, les responsables n'en ont pas, donc ils doivent faire du covoiturage, les parents doivent parfois aider un peu. Et puis, c'est la même chose pour les enfants. Nos familles s'organisent en covoiturage pour pouvoir limiter les déplacements, emmener les enfants dont les parents ne peuvent pas les emmener. Enfin, voilà, on s'organise.
Et comment avez-vous fait pour séduire des jeunes qui n'ont jamais fait de scoutisme ?
Dans les stages BAFA, on organise des stages localement. Et puis, vivre une semaine de stage BAFA avec des scouts, ça donne envie à beaucoup d'essayer quand même. Alors, plus ou moins longtemps, on peut... certains ne font que passer, mais on a réussi à avoir des jeunes comme ça qui ont eu envie de s'investir après dans le groupe. Et notamment, les premiers jeunes du groupe, c'est comme ça qu'on les a rencontrés.
Et vous avez mis par exemple un système de covoiturage en œuvre pour rejoindre les groupes BAFA ou les sorties ?
Alors pour les stages BAFA, nos stagiaires arrivent souvent en train et ensuite oui, on s'organise pour aller les chercher à la gare et les ramener au stage. Et puis après pour les rencontres, c'est arrivé que ce soit des parents d'enfants qui emmènent les responsables aux activités. Et puis sinon les responsables s'organisent entre eux en fait pour pouvoir s'emmener les uns les autres. Voilà.
D'accord. Et alors apparemment, dans votre groupe local, certains adhérents sont des enfants exilés. Comment ils ont rejoint votre groupe ?
Alors dans notre groupe, il y a plusieurs cadres et parents qui sont investis dans les réseaux d'accueil de migrants. Et puis on a aussi fait des rencontres avec les bénévoles de la CIMAD et de la CATS au moment où il y a eu beaucoup d'arrivées de migrants sur le territoire pour expliquer un peu aux enfants et aux familles du groupe ce qui se passait et ce qu'on pouvait faire pour participer à la solidarité. Et suite à ça, on a des jeunes mineurs isolés qui ont intégré les activités, dont les familles d'accueil ont permis qu'ils intègrent nos activités. Et puis on a aussi une famille de migrants qui est arrivée pas très loin et dont les enfants ont commencé à être louveteaux. Donc là, on a accueilli 5 migrants depuis 2 ans, louveteaux, éclaireurs, responsables aussi. Eux sont des migrants d'origine assez diverse. Ils ne sont pas tous des migrants des mêmes pays et n'ont pas tous les mêmes histoires. Pour certains, au départ, ils ne parlaient pas français. Donc, il a fallu les aider un peu. Mais là, pour le coup, pour les enfants, c'est plus facile parce que quand il y a une activité qui se met en place par imitation, les enfants peuvent assez vite comprendre le jeu. Les activités de vie quotidienne, ensuite, sont communes à peu près à tout le monde. Donc, on n'a pas besoin de beaucoup d'explications pour vivre ces choses-là ensemble. Dans l'ensemble, les responsables n'ont pas eu le sentiment de faire des choses très, très particulières. Ils ont accueilli ces jeunes-là comme tous les nouveaux qu'on accueille. On fait attention, on est vigilant. Et après, on fait en sorte qu'ils soient intégrés et associés comme tout le monde.
Et concernant les tarifs des activités et des camps, est-ce que vous avez mis en place des choses particulières ?
Alors pour les tarifs d'adhésion, le mouvement permet qu'il y ait des tarifs différents en fonction des ressources. Et nous, pour les camps, on a aussi des tarifs pour les personnes qui ont plusieurs enfants, des tarifs pour ceux qui peuvent bénéficier des aides CAF. Pour ceux qui ne peuvent pas en bénéficier, mais qui sont limites, c'est le groupe local qui donne une aide, on va dire, qui allège le prix. Et puis les familles qui ont des revenus un peu plus élevés ou qui le souhaitent peuvent aussi payer un peu plus cher les camps pour qu'on puisse faire vivre la solidarité au sein du groupe. Ensuite, on accompagne aussi, on fournit aussi les informations aux parents qui peuvent bénéficier d'aide auprès de leurs entreprises, auprès de la municipalité. Et puis après, on fait souvent appel, on n'hésite pas à faire appel au Fonds national de solidarité qui est proposé par le mouvement. Et on aide ainsi des familles, des responsables aussi. On propose des aides à la formation avec des aides du groupe local, des aides de la région, mais on fait aussi appel au Fonds national de solidarité quand on a besoin pour compléter ces aides-là.
Et on rappelle que le Fonds national de solidarité, du coup, vit grâce aux dons des bénévoles ou des personnes extérieures à notre mouvement.
Exactement. Et donc, nous, on a aussi fait le choix de donner les calendriers que le mouvement propose chaque année pour pouvoir en distribuer largement, expliquer aux gens qu'ils peuvent faire un don. C'est un outil pour nous de nous faire connaître et puis aussi de permettre à notre groupe de recevoir des dons directs.
Votre groupe accueille aujourd'hui qu'à peu près 90 personnes. Est-ce que vous pensez encore accueillir d'autres jeunes ?
Alors, on accueille toujours des nouveaux éclaireurs et des nouvelles éclaireuses des 12-16 ans. En revanche, cette année, on n'a pas pu accueillir tous les louveteaux qu'ils souhaitaient. On avait une quarantaine d'enfants qui souhaitaient s'inscrire ou se réinscrire et on n'avait pas la capacité d'encadrement de locaux pour accueillir 40 enfants. Donc on a dû refuser des personnes et ça nous pose vraiment question. Et je pense que ça, c'est un frein à l'ouverture puisque c'est nouveau, ce sont des nouvelles familles qui aimeraient découvrir le scoutisme. Et pour nous, le nouveau défi, ce serait de créer un second groupe, de réouvrir quelque chose pour pouvoir rester ouvert et accueillir ces nouvelles familles qui ont envie de nous rejoindre.
On espère que le message est passé. Merci Claire d'avoir été avec nous. Merci pour ton témoignage. Offrir un foulard à tous et à toutes, c'est vraiment le défi que veulent relever les éclaireurs et éclaireuses unionistes de France en ce moment. Les actions de chacun et de chacune y contribuent. On passe tout de suite à l'actualité du scoutisme avec Paul.
Bonsoir à tous et à toutes. On commence cette page d'actu avec une info qui a fait du bruit. Le prix Nobel d'économie a été remis, entre autres, à une ancienne éclaireuse unioniste, Esther Duflo, qui était dans le groupe de Bois-Colombes, pour ses travaux sur la réduction de la pauvreté dans le monde. En 2011, elle a déclaré « Je dois au mouvement, en grande partie, une confiance inébranlable dans l'idée que le monde peut être plus juste, plus fraternel et plus vivable pour tous. » Les éclaireuses et éclaireurs unionistes de France la félicitent pour ses travaux et puis pour ce prix. Canaan, c'est le camp national des aînés et il commence aujourd'hui, ce soir, à Bécourt, dans l'Aveyron, sur le rebord du Causse Rouge. Cheminer sur la route, faire des choix, vivre un grand camp de rencontres, en limitant l'impact climatique de l'événement évidemment, c'est ce que vont vivre les équipes de toute la France jusqu'au 2 novembre. Bon camp! Pour les Lumières de la Paix de Bethléem, il reste des places pour les louveteaux et les louvettes qui partiront dans la délégation qui va à Vienne. Pour candidater, vous pouvez écrire à Axel et Gabriel à l'adresse ldlpb@eudf.org. Pour diffuser la lumière, rendez-vous dans toute la France à partir du 15 décembre. Et on termine avec une information scoutisme français. La fédération dont nous sommes membres est candidate pour l'organisation de la Conférence mondiale du scoutisme en 2023. La Conférence mondiale rassemble 170 organisations scouts nationales pour discuter, débattre et prendre des décisions sur le futur du scoutisme. Notre projet pour 2023, c'est de faire de cette 43e édition, 100 ans après la première, d'en faire la première conférence campée, respectueuse de l'environnement et accessible au plus grand nombre. Verdict en août 2020.
Merci Paul pour ces infos. On enchaîne tout de suite avec Scout de Bureau, la nouvelle chronique qui décrypte les décisions institutionnelles de l'association, faite par Roxane.
Scout de Bureau, c'est la chronique qui t'en dit plus sur ce qui se passe avec les foulards blancs. Tu sais, celles et ceux qu'on appelle le national, qui, comme toi et moi, sont des personnes engagées, des membres de commission, du conseil d'administration, de l'équipe nationale. On te décortique ce qui se fait dans ces instances.
Ensemble on est mieux, on a du mal à se dire adieu. Les scouts nous portent, nous transportent, nous font danser comme le feu.
Ce mois-ci, je te parle d'orientation. L'orientation, c'est une direction à prendre en fonction de la position qu'on a en ce moment. Et c'est bien ça. Au sein de l'association, on réfléchit aux orientations qu'on voudrait prendre par rapport à ce qu'on est, ce qui nous porte et ce qui fait sens pour nous aujourd'hui. Tout ça pour se donner de nouvelles ambitions dans les années à venir. Et pour marquer ces choix, pour pouvoir le rapporter au plus grand nombre, on va l'inscrire dans un document, dans un rapport. On fera notre rapport d'orientation, notre RO. Alors ce document, il existe déjà, depuis 2008, environ l'année de naissance de tes louveteaux et de tes louvettes. Et il prend fin en 2020. 2020, c'est bientôt, c'est là, c'est en janvier qu'on va voter le prochain rapport d'orientation. Il y a un an, à cette période de l'année, on était au congrès 2018. C'est là qu'ont été tirés au sort des personnes pour rédiger le prochain rapport d'orientation. Tirés au sort, tu imagines, devant près de 600 personnes, leur nom a affiché sur un grand écran. Ces gens qui ne savaient pas vraiment ce qu'elle et il allaient faire et qui ont accepté le défi et qui ont même super bien tenu cet engagement. Alors un grand merci. L'équipe a donc livré en juin 2019 le prochain modèle du rapport d'orientation. Et c'est là que nos foulards blancs réapparaissent. Le conseil d'administration a décidé de prolonger ce processus démocratique qu'on a voulu mettre en place à travers la conception de ce rapport d'orientation. Et c'est là que tu peux intervenir. La prochaine version du RO est amendable. Ça veut dire que tu peux proposer des modifications au texte si tu estimes qu'il ne correspond pas exactement aux orientations qu'on veut prendre pour les années à venir. Et comme tout a un sens pour nous, il faut justifier ces modifications et les expliquer. Et comme on est aussi convaincu qu'on avance mieux ensemble et qu'on réfléchit plus avec le collectif, tu peux faire cela seulement en étant en groupe, c'est-à-dire minimum composé de 2 personnes. Je n'ai plus qu'une chose à te donner, c'est l'endroit où tu peux faire ces amendements. eeudf.org/démocratie.
Merci Roxane pour cette jolie chronique. Tout de suite, la seconde partie de notre émission, dans laquelle nous avons eu envie de mettre en lumière, un peu comme l'année dernière, l'action de la Banque Alimentaire, dont la récolte nationale aura lieu le week-end du 29-30 novembre et 1er décembre, et pour laquelle on peut encore s'inscrire. Nous recevons pour nous en parler Nicole Farlotti, qui est la présidente de la Banque Alimentaire Paris et Île-de-France, ainsi que Camille, étudiante qui y a déjà participé dans le cadre de sa paroisse et qui nous livre son témoignage.
Bonsoir Nicole Farlotti.
Bonsoir.
Alors, pour ceux qui ne connaissent pas la Banque Alimentaire, qu'est-ce que c'est ?
La Banque Alimentaire, en fait, c'est une association qui collecte des denrées alimentaires et qui les redistribue aux associations qui aident les personnes en difficulté. On fonctionne un peu comme un grossiste.
Et alors, quelles sont les actions que vous menez tout au long de l'année ? Alors, c'est pas que de la récolte, du coup.
Non, toute l'année. Voilà, la collecte de fin novembre, c'est le moment où on est visible pour le grand public, puisqu'on est présent dans la plupart des grands magasins. Mais sinon, tout au long de l'année, on récupère les produits frais qui sont en fin de date de la grande distribution. Et puis, on a aussi les dons des industriels de l'industrie agroalimentaire. Donc, on récupère tous ces produits. Et on les redistribue, donc on les stocke, on les trie dans nos entrepôts. Et puis les associations viennent chercher les produits dont elles ont besoin.
Il y a des partenariats qui sont signés avec des associations scouts. C'est quoi l'intérêt pour vous de ces partenariats ?
Oui, au moment de la collecte, bien sûr, on a besoin sur ce week-end-là de beaucoup de bénévoles supplémentaires, puisque sur l'Île-de-France, par exemple, on est présent dans plus de 1000 magasins, donc il nous faut beaucoup de monde et puis beaucoup de jeunes, beaucoup de bras, voilà, pour accueillir les clients à l'entrée des magasins, leur expliquer pourquoi on fait cette collecte, et puis ensuite, à la sortie, récupérer leurs dons, les trier, les mettre en carton. Donc, les scouts, c'est souvent, soit ils collectent seuls, soit ils le font avec une autre association, donc c'est une aide très appréciable ce week-end-là.
Et vous travaillez avec combien d'associations de manière générale ?
Nos associations partenaires, c'est-à-dire celles qui distribuent l'aide alimentaire sur l'Île-de-France, on en a 300. Et puis, voilà, on a d'autres associations, même des groupes d'amis, des bénévoles, des clubs services qui nous rejoignent le week-end de la collecte. Donc, ce grand week-end, enfin, ce grand week-end pour nous, c'est quasiment 20 000 bénévoles qui vont nous aider.
Rien qu'en Île-de-France ?
Rien qu'en Île-de-France, oui.
Alors justement, on a Camille qui est en studio avec nous. Merci Camille d'être là.
Merci à vous. Bonsoir à tous.
Bonsoir. Toi, par exemple, tu as déjà participé à la Banque Alimentaire. Est-ce que tu peux nous dire déjà comment tu as découvert l'association et comment tu t'es engagée ?
Alors, pour la Banque Alimentaire, sur le terrain, je veux dire l'an dernier, j'ai participé via ma paroisse qui m'a proposé, voilà, dans les actualités de l'église. Ils ont dit qu'ils participaient et qu'ils recherchaient des bénévoles. Et sinon, à côté de cela, moi, je suis membre et même très active dans mon Léo Club. Donc, c'est un club qui est lié au lyonisme et qui est réservé aux jeunes. Donc, on va dire dans la tranche d'âge entre 18 et 25-30 ans. Et le lyonisme participe à la Banque Alimentaire depuis déjà de très nombreuses années. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai connu, en fait, via déjà de l'associatif.
Combien de fois tu as participé à ces opérations de collecte de la banque alimentaire ?
Alors, personnellement, sur place en tant que volontaire bénévole dans les magasins, j'ai participé une fois l'an dernier grâce à ma paroisse. Et après, à côté de cela, j'ai aussi participé, mais plus sur le plan de l'organisation, du travail en amont, c'est-à-dire informer, rechercher et mobiliser des bénévoles. Et après, ensuite, les aider, je veux dire pas directement, mais indirectement via le téléphone, etc., et les mails, pour les aider à être prêts le jour J et à pouvoir collecter dans nos hypermarchés. Et cette année, je reparticipe encore à la banque alimentaire dans un mois, et cette fois-ci avec mon club. Voilà, donc ça aura lieu dans un des hypermarchés du 15e arrondissement.
Très bien. Et est-ce que tu peux nous dire, toi, personnellement, qu'est-ce que ça t'apporte de participer à la banque alimentaire ?
Alors, la banque alimentaire, qu'est-ce que ça m'apporte ? De manière générale, ce qui m'importe le plus, c'est donner, c'est servir les autres. Et la banque alimentaire, c'est une très bonne occasion de servir. Pourquoi ? Parce que déjà, c'est un événement qui est ponctuel. Donc, vous n'avez pas besoin d'être lié à une association en particulier, de vous engager, de vous dire il faut que je trouve une disponibilité toutes les semaines. Dans la banque alimentaire, c'est surtout, même si ça, c'est de manière générale, l'association est active toute l'année, la collecte, elle a lieu vraiment une fois durant l'année, en hiver, et vous avez déjà donné les dates, ça sera le dernier week-end de novembre. Et donc, vraiment, on peut donner seulement 2 heures ou 3 heures dans la journée. On n'a pas besoin d'être là, présent, toute la journée dans l'hypermarché. On donne juste nos disponibilités. On dit, écoutez, moi, je peux être là durant 2 heures, 3 heures. Voilà, parce que ça a lieu du matin, donc à l'ouverture de l'hypermarché jusqu'à sa fermeture. Hein. Vraiment, c'est toute la journée durant 3 jours. Et donc, voilà, c'est très, très pratique, du coup, parce que tout le monde peut ainsi donner de son temps et voilà, et participer à son échelle à quelque chose qui est vraiment très utile et très crucial, parce que la banque alimentaire, cette récolte et cet événement, ça permet ensuite de récolter, son nom l'indique, une quantité énorme de repas, de denrées alimentaires non périssables ou même de produits d'hygiène qui ensuite serviront aux associations de terrain, celles qui sont au contact des personnes démunies, qui sont en état de nécessité et qui vont répondre à leurs besoins pour les 6 prochains mois. Donc vraiment, c'est très important.
Et toi, du coup, tu as déjà participé aussi à des opérations le reste de l'année, pas que lors de la collecte, c'est ça ?
Alors, dans le sens que, oui, parce que la banque alimentaire, ce qui concerne, on va dire, la partie collecte, alors il y a la grande collecte nationale qui a lieu, effectivement, pour ces dates-là. Et ensuite, il y a une seconde petite collecte de printemps. Elle, c'est pas une date fixe, donc c'est-à-dire qu'en fonction des villes, ça pourra changer. Par exemple, je vais dire n'importe quoi, mais à Nancy, ça pourra avoir lieu en avril, alors qu'à Rennes, ça aura lieu durant le mois de juin, cette collecte de printemps. Et donc là, pareil, encore, des hypermarchés sont mobilisés et des bénévoles, on a besoin de bénévoles pour être présents et pour pouvoir récolter les dons, voilà.
Alors effectivement, tu indiques qu'il y a besoin de bras lors de ce week-end de collecte. Pourquoi tu conseillerais à des jeunes qui t'écoutent, et particulièrement Réseau Scout, de participer cette année ?
Ah, parce qu'en fait, pour assurer la réussite de cette collecte, en fait, il faut que le maximum d'hypermarchés soient participants, pour ainsi toucher le maximum de consommateurs. Donc là, effectivement, comme on l'a déjà dit, on redit là maintenant, il nous faut énormément d'effectifs de personnes volontaires, en fait, d'effectifs humains. Et c'est vraiment une action qui rassemble, en fait, des bénévoles qui sont tous motivés par la même envie, c'est l'envie de donner un peu de soi, d'aider les autres et de répondre à un besoin qui est concret, un besoin qu'on voit au jour le jour. Tous les jours, on se promène dans la rue, on voit des gens qui sont dans la rue, ou alors on voit des personnes qui vont vers les Restos du Cœur ou d'autres associations et qui ont vraiment concrètement, même autour de nous, peut-être nos proches, ont besoin en fait de ces aides-là. Et là, vraiment, c'est en plus de donner, on aide à récupérer, à aussi informer les gens, à les mobiliser. Et ça, c'est très intéressant et ça permet de grandir aussi en maturité et de concrétiser nos valeurs par l'action.
Alors, on a quand même Nicole au téléphone. Enfin, là, on a super porte-parole pour la banque alimentaire. Mais Nicole, juste pour vous poser cette question, parce que c'est vrai que du coup, pendant la collecte nationale dont on entend tous parler dans les médias et qui est la plus médiatisée, évidemment, comment on fait pour motiver les jeunes à aider toute l'année et à rester dans les troupes le reste du temps ? Parce que la banque alimentaire, encore une fois, c'est pas que en week-end.
Oui, c'est vrai que nous, on est ouvert toute l'année. Après, notre fonctionnement, en fait, on est ouvert en semaine et en journée, donc c'est pas toujours facile pour des jeunes ou des gens qui travaillent de venir nous aider, mais bon, on peut aussi faire des petites choses, enfin, des petites, entre guillemets, mais il y a des façons d'aider, même sans être présent dans les banques alimentaires. Dans les jeunes qui font la collecte, je pense qu'ils ont envie de s'investir davantage, ils peuvent se rapprocher de nous, voir comment ils pourraient nous aider, par exemple, qui ont des compétences en informatique ou qui ont un peu de temps à consacrer. Et voilà. Mais c'est là vraiment le grand moment pour nous, c'est cette collecte, puisque effectivement, c'est des produits qu'on va redistribuer pendant 6 mois et en fait, on accumule un tiers de nos approvisionnements en un week-end. Donc voilà, c'est vraiment très, très important.
Et alors, vous avez parlé par exemple de personnes qui auraient des compétences en informatique parmi les jeunes. Quels autres types de profils vous recherchez ?
Ça peut être un petit peu de tout. Alors, si c'est des jeunes qui ont le permis, ça peut être aussi des chauffeurs ou après, même sans avoir des compétences particulières, on a besoin de bénévoles pour trier les produits qu'on récolte dans les magasins. Ça peut être pour faire un petit peu d'administratif. Donc, vraiment, tous les profils, il faut pas se... Et même si on pense ne pas avoir de compétences particulières, je crois qu'on peut être utile si on a envie de s'engager.
Donc on peut venir à partir du moment où on a 2 heures ou 3 heures de son temps à donner, par exemple, par mois. C'est facile d'accès. Et comment on fait pour vous contacter?
Alors on peut aller sur notre site internet. Donc pour l'Île-de-France, c'est www.bapif.fr. Vous nous envoyez un mail, nous téléphoner. Et puis après, en fonction des disponibilités, on voit comment on peut travailler ensemble.
Ok, très bien. Bah écoutez, merci beaucoup Camille, merci Nicole d'avoir été avec nous malgré les problèmes de RER que vous avez pu rencontrer sur la région parisienne, puisque Nicole devait être avec nous en plateau mais elle n'a pas pu. On se quitte un instant pour une pause musicale.
Maybe I'm blind, thinking I can see through this and see what's behind. Got no way to prove it, so maybe I'm lying. But I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put your blame on me. Take a look in the mirror, and what do you see? See it clearer, or are you deceived in what you believe? 'Cause I'm only human after all, and you're only human after all. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me. My opinion, don't ask me to lie and beg for forgiveness for making you cry, for making you cry. 'Cause I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put the blame on me. Oh, some people got the real problems. Some people out of love. So Lord heavens above, I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put the blame on me. Don't put the blame on me.
Vous écoutez Ça se discute, l'émission des EEUDF sur Fréquence Protestante 100.7 FM et c'était la chanson Human de Rag & Bone Man.
Dans cette dernière partie d'émission, nous recevons par téléphone Maxime Vanhoenacker, chercheur au CNRS qui est déjà venu l'année dernière pour nous parler de son étude sur la spécificité de l'éducation scout et qui, à l'occasion des 80 ans du CNRS, a organisé la projection d'un ciné-club scout et d'un film documentaire réalisé à partir de nombreuses archives qu'il exploite en ce moment pour l'intérêt de son étude justement. Ce documentaire s'intitule « Les Indiens chez les scouts » et le petit résumé sonore que je vous ai réalisé mélange des dates et des chronologies, alors soyez attentifs. Certains extraits datent.
Et voilà. C'est une histoire qui pourrait durer très longtemps. Comme la marche de ces petits garçons qui se retrouvent au hasard de la grande forêt. Vous n'en saurez pas la fin. Ça n'a aucune importance. C'est le départ qui m'est apparu comme la meilleure introduction à l'amitié pour ce monde de la jeunesse qui veut vivre à cœur joie. Dans la vérité, ces petits garçons en torse nu s'appellent des louveteaux. Et je vous conseille de bien retenir ce nom-là, louveteaux. Il en sera beaucoup question dans les années à venir. Le soir, au monde des éclaireurs, voit naître le feu de camp. C'est l'appel des familles, c'est l'appel des patrouilles. Ohé les loutres, sortez de vos profondeurs et venez vous joindre à nous pour le feu du soir, pour ses jeux, pour son rêve.
Les ancêtres du scoutisme sont là, représentés par des masques débonnaires et par d'authentiques peaux rouges de la délégation des États-Unis. Dans une authentique danse de l'aigle.
Les garçons des territoires de l'ouest des États-Unis exécutent les danses des tout premiers Américains auxquels tant de connaissances de la science du plein air ont été empruntées.
Here, American scouts perform an Indian war dance.
Une invitation à déjeuner, pourquoi pas? Je suis invité chez les lions. C'est un peu inquiétant. Et... c'est un loup qui me conduit. Comment vais-je sortir entier de cette ménagerie?
Tiens, les lions, c'est là.
Courage. Acceptons l'aventure. Un feu qui semble sortir d'un de ces bouquins qui m'ont fait rêver quand j'étais gosse. Et ça a l'air solide.
Sales Bill, t'es un peu ce que je suis en train de faire, là? Ça sent bon, hein? C'est du civet à moi, à la manière de moi, comme je le fais. Bon, bah rentre, t'as qu'à aller voir le CV et t'attends là-bas.
Baba!
Mort!
Baba!
Mort!
Baba!
Petit merci!
Ces cris de sauvage. Des fleurs pour l'inviter? Ces lions-là sont civilisés.
Oh, je sais pas. Toi, t'es crevé du brunch d'hier soir. Bah, bien sûr,
tu permets, hein, on sert le plus jeune le premier.
Alors arrête, toi.
J'ai laissé les petits fauves repus à leur sieste. Ils racontaient leur vie de patrouille, leur victoire sur les loups ou les panthères, avec un enthousiasme exubérant. Et organiser la gamelle d'eau chaude pour la vaisselle. Ils ne doivent pas en faire autant chez eux. Mais là, ils sont à leur affaire.
Thank you.
Qui es-tu, gazelle? Qui êtes-vous, tous? Je me demande si tes compagnons te voient comme je te devine. Eux si insouciants, tellement libres dans leur amitié que l'on pourrait s'y méprendre. Car si ce n'était qu'une camaraderie vulgaire, il n'y aurait pas entre vous cette franchise limpide. Comment êtes-vous si ouvert, si disponible, et en même temps si indifférent à ce qu'on pense de vous?
Alors Maxime, tu es en ligne avec nous, merci d'être là, sachant qu'on te sait en ce moment sous une toile de marabout avec les éclaireurs de la nature au nord de Montpellier.
Oui, bonsoir, tout à fait. Alors je ne suis plus sous la toile de marabout parce qu'il y a une réunion de direction d'équipe de camp, mais je ne suis pas loin. Et effectivement, je suis avec vous par téléphone.
Alors on vient d'écouter un petit extrait savoureux de ton travail. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur la thématique choisie, les Indiens chez les scouts? Pourquoi cet angle? Oui. C'est quoi l'indianisme?
Alors l'indianisme, c'est une question, effectivement, ça dépasse bien largement le cadre scout. C'est le nom qu'on donne à ces réseaux, souvent d'amateurs plus ou moins éclairés, qui ont entrepris de se réapproprier un mode de vie ou un ensemble de techniques ou d'éléments culturels. Réel ou fantasmé, souvent associé à la vie des Indiens des Plaines, mais à la vie des Indiens des Plaines dans un certain passé, le passé de la conquête de l'Ouest, généralement la deuxième moitié du 19e, mais ça croise effectivement l'histoire du scoutisme, notamment le début du scoutisme.
Alors du coup, pour reprendre la question de Catherine, pourquoi tu as choisi cet angle pour aborder la thématique scout et l'éducation scout?
Alors c'est un angle parmi d'autres, hein, bien entendu, mais... Dans le cadre de ce ciné-club, on avait l'occasion de proposer différents documents audiovisuels. Celui qu'on a proposé sur les Indiens, c'était un choix. On a récupéré dans notre travail d'inventaire un fonds d'archives audiovisuelles très important. Il y a plus de 800 vidéos disponibles sur un siècle de scoutisme. Et on avait choisi d'y entrer, effectivement, c'était un biais qu'on avait assumé sur la question de la figure de l'Indien comme figure de l'altérité, c'est-à-dire pas le scout, ça pourrait être un peu le modèle mythique ou fantasmé du scout, puisqu'on le retrouve dès les origines effectivement du scoutisme et puis à différentes époques. Donc c'était vraiment un choix de notre part. On aurait pu avoir d'autres thématiques d'entrée, mais travailler l'indianisme, ça nous permet à la fois de repenser les imaginaires qui étaient à la mode, notamment aux origines du scoutisme et puis jusqu'à l'entre-deux-guerres. Et à ce moment-là, effectivement, la conquête de l'Ouest, l'Ouest sauvage avec les Indiens était assez important et ça permettait d'attirer en partie les enfants à venir adhérer au jeu scout. Et puis il y a aussi une dimension dans l'indianisme scout liée à la vie, une espèce d'utopie créatrice, hein, comme dit mon collègue Olivier Maligne, qui s'adapte tout à fait correctement à la vie en camp, en plein air, sous la toile, autour du feu, en petits groupes.
Alors, est-ce que tu peux nous raconter par rapport du coup à l'objet de ton étude, comment tu travailles? Est-ce que tu as une équipe? Comment tu travailles sur ce projet?
Alors oui, ce projet est bien plus large que ce documentaire, ce remontage documentaire à partir d'archives sur l'indianisme. Donc c'est un projet qui s'étale sur 3 ans, qui regroupe une dizaine de chercheurs. Moi, en tant que coordinateur, j'ai sollicité certains de mes collègues qui ne sont pas spécialistes du scoutisme, mais certains travaillent sur la socialisation des jeunes, d'autres sur les questions de rituels. Il y a des historiens, des anthropologues, des politistes, des sociologues. Et l'idée, c'est de venir croiser les champs d'études et les spécialisations sur cet objet commun qui serait le scoutisme. Donc, voilà, en 3 ans et en différentes phases, on a à la fois un travail de recueil de sources bibliographiques, audiovisuelles, donc il y a du son et de l'image, il y a aussi tout un tas de productions amateurs, savantes, qu'on souhaite regrouper et analyser, en tout cas poursuivre de l'analyse, hein, qui a déjà été commencée par d'autres. Et puis on travaille aussi au recueil d'entretiens biographiques d'anciennes et d'anciens du scoutisme au sens large. On produit une série de films documentaires contemporains, donc j'étais venu l'an dernier, j'ai eu le plaisir de venir à votre émission l'an dernier parce qu'on avait produit un de ces opus documentaires sur le congrès des éclaireuses et éclaireurs unionistes en 2018. Et puis la dernière phase du projet sera un travail de plus classique de questionnaire statistique. On espère avoir de nombreux répondants pour essayer de mieux cerner la spécificité du scoutisme et des passages par le scoutisme.
Et est-ce que déjà plusieurs des premiers résultats ou des premiers renseignements peuvent déjà émerger?
Alors oui, on a là sur la première année de travail, notamment mon collègue Nicolas Pallier a fait un gros travail de recension et d'analyse bibliographique, donc il a près de 250 sources qui ont été publiées depuis 1997. On se base à la suite du travail qui avait été mené par Jean-Jacques Gauthier à l'époque, publié en 1997, qui avait fait un inventaire assez exhaustif des sources disponibles sur le scoutisme. Mmh. Donc on a déjà ce travail bibliographique qui nous permet de voir quelles sont les disciplines, les centres d'intérêt, les thèmes qui sont abordés quand il s'agit du scoutisme. On a aussi, nous, avancé sur la question de la filmographie scout, quelles sont les évolutions de la mise en image du scoutisme par les associations, par les scouts eux-mêmes, mais aussi par les extérieurs, le scoutisme dans les fictions.
Désolée de te couper, Maxime, mais on va être très 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 court. Je te remercie énormément pour toutes ces informations. On peut retrouver les premiers éléments de ton étude sur le site du CNRS. Cette étude s'appelle Scouto, comme scout toujours.
Voilà.
Merci à Claire, Camille, Nicole et Maxime d'avoir été avec nous pour cette émission. Merci Paul et Roxane pour leur chronique et surtout à Catherine de m'avoir accompagnée. Merci à Emmanuel à la technique. Petite dédicace à Marion avec qui j'ai partagé l'antenne l'année dernière. On espère qu'elle se la coule bien douce ce soir en nous écoutant évidemment. Nous, chers auditeurs, on se retrouve lundi 25 novembre pour une nouvelle émission. Dans un instant, la suite de vos programmes sur Fréquence Protestante. Passez une belle soirée.